Lyon demain, ville, mers et océans.
Lyon et ses fleuves, c'est une histoire d'amour passionnelle, parfois tumultueuse, qui façonne l'identité de la ville. Mais que sait-on vraiment de ce lien qui unit les Lyonnais à la Saône et au Rhône ? Entre l'aménagement des berges qui a révolutionné la ville, la menace invisible mais bien réelle des crues historiques et les secrets architecturaux qui se cachent sous nos yeux, nous vous proposons aujourd'hui une traversée commentée unique. Notre invité, Yvan Carlo, qui a grandi les pieds dans l'eau avant de devenir conseiller scientifique et pédagogique pour l'association Péniche du Val-de-Rhône, nous guide au fil de l'eau, de la presqu'île au confluent. Il décrypte pour nous les mystères et le fonctionnement de cette ville unique au monde.
Je suis né au bord du fleuve, d'abord. Mon père aimait la pêche. J'ai toujours été les pieds dans l'eau depuis ma tendre enfance, donc sur la Saône. Et puis maintenant, avec mes études universitaires, et on avait quand même, je dois rendre hommage aux universitaires que j'avais à l'époque, c'était en particulier Jacques Bettemont qui avait fait sa thèse sur le Rhône, et donc je suis toujours resté très attaché d'abord à ce maître, Jacques Bettemont. Tout naturellement, je suis toujours resté très attaché à ces fleuves. L'engagement ici sur l'association Péniche du Val-de-Rhône s'est fait tout naturellement. J'étais en conférence à l'UNESCO à Paris, il y a un monsieur, Yves Janin, qui est venu me voir en disant « Est-ce que vous ne voudriez pas venir à titre de conseiller scientifique et pédagogique ?» Je n'ai pas pu dire non.
On dit souvent que cette ville de Lyon, c'est une ville qui est un peu unique parce que c'est une ville qui est à la confluence de cours d'eau. Est-ce que c'est un cas unique vraiment ?
Alors, c'est pas tout à fait un cas unique parce que dans le monde, il y a deux seules villes, il y a beaucoup de villes qui sont en situation de confluence. C'est Paris, Coblence, etc., tout ce que vous voulez. Elles ne manquent pas les villes qui sont à la confluence. Mais là, c'est une ville de confluence en presqu'île. Et de ce fait, il n'y a que deux villes dans le monde qui ont ce site très particulier de confluence sur presqu'île. Voilà. Et donc, il s'agit de Pittsburgh aux États-Unis et de Lyon. Ce qui impose donc un fonctionnement de la ville très particulier parce qu'il faut franchir ces deux fleuves. Je crois que Pittsburgh a aussi une quarantaine de ponts et à Lyon, la métropole, plus de 45.
La particularité de cette ville, c'est aussi qu'on peut déambuler, c'est qu'il y a beaucoup de tourisme autour de ce fleuve et de cette rivière. C'est quoi les points marquants pour vous ?
Alors, les points marquants, ça a été cette bascule à la fin des années 90, lorsqu'il y a eu la décision de transformer les bas-ports du Rhône, qui avaient été abandonnés pour l'aspect fluvial d'entrepôts, de chargement, etc., en parking. Donc il y avait entre 3000 et 5000 pas. Sur le linéaire du Rhône, il y avait entre 3000 et 5000 voitures stationnées. C'était affect. Et donc la décision de mettre les voitures dehors et de créer des parkings souterrains comme celui de la Fosse aux Ours ou celui de la place Lyotet, c'était justement pour permettre de dégager les bas-ports du Rhône et de les transformer dans cette association, cette structure qui s'appelle Berge du Rhône, qui a permis le tracé de la Via Rhôna, mais aussi ses lieux de promenade, et puis surtout cette sectorisation du linéaire des berges pour, comme ici, là où nous sommes, bateau associatif, port de navires de croisière, ensuite section des bars et des restaurants, ensuite section des bateaux habitants. Et ça, le succès était immédiat. Les Lyonnais avaient un besoin irrépressible de se réapproprier les fleuves. Ça, c'était la grande ambition et qui a été un succès vraiment formidable. Et du coup, dans la lancée, ils ont dit, puisqu'on a fait ça sur le Rhône, on va faire la chose sur la Saône, mais en plus grand, en plus long, parce que normalement ça devrait aller jusqu'à Neuville. Et puis, mais avec une autre ambition, c'est-à-dire là, c'est en section, parce que ça s'appelle River Movie, comme les séquences d'un film, c'est de s'approprier des sections complètes par trois personnes fondamentales, un architecte, un paysagiste et un artiste, d'accord ? Et en tenant compte des spécificités locales ou de l'histoire locale. Et ça, c'était une réussite aussi. Et le succès de River Movie a été aussi immédiat. En même temps, ça a permis aussi de reprendre le contrôle de la végétalisation des berges et on a réaménagé en particulier le chemin nature qui va depuis le pont Mazarik jusqu'à l'île Barbe, qui s'appelle le chemin nature. C'est un vrai succès. Voilà.
Quand on déambule, enfin quand on dérive sur le Rhône ou sur la Saône, on voit beaucoup de vestiges en fait des anciennes crues et ça paraît énorme. Et notamment ces anneaux qui ne sont pas du tout au niveau des anneaux actuels.
Oui, oui. Alors là, c'est ce qui rappelle l'histoire mouvementée de la ville avec ses fleuves ne sont pas du tout des fleuves tranquilles, en particulier la Saône, qui ont des crues magistrales. Qui ont été très documentés. Il y a des thèses, en particulier sur la thèse de 1840, la crue de 1840 de la Saône, cette thèse, qui a permis de savoir exactement ce qui s'était passé et de comprendre pourquoi. Et d'ailleurs, l'une des demandes qui a été faite par la métropole, pour nous, lorsqu'on navigue avec des, pas uniquement avec des scolaires, mais aussi avec des adultes, c'est de rappeler que il y a une probabilité grandissante de retour des grandes crues. Et donc, c'était notre rôle, quand on commente les navigations, c'est de commenter, dire attention, vous voyez, les traces des anciennes crues, ou cette histoire de la Saône qui a traversé la Presqu'île, ou que la Bellecour était sous 1,50 m de flotte pendant une semaine. Le pire, c'était Vaise, 3,50 m pendant 21 jours. Et encore, les marques de crues sont encore très absolument visibles partout. Et il suffit de regarder un peu, on voit ces marques de crues qui identifient bien les hauteurs atteintes. Maintenant, comme il y a une probabilité de retour des grandes crues, il nous a été demandé de sensibiliser, parce que ça va se reproduire. En 1840-1856, il n'y avait pas de métro, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas le gaz, tous ces réseaux qu'on a vus sous les ponts, sous les tabliers des ponts. Imaginez ce qui va se produire dans une crue de type 1840 pour la Saône ou 1856 pour le Rhône. Ça va être une catastrophe. Vous connaissez la théorie d'Archimède. Imaginez une crue de la Saône ou du Rhône dans la Presqu'île. Le métro, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sortir de terre, comme un bouchon. Donc le premier travail, ce sera d'inonder tous les tubes pour éviter qu'ils remontent à la surface. Vous voyez la rue de la République avec le tube du métro.
Et ça, c'est envisageable malgré le réchauffement climatique? On nous dit qu'au contraire, le fleuve va baisser.
Non, pas du tout. Alors, et c'est deux choses. Il faut bien comprendre que le réchauffement climatique provoque une fonte accélérée des glaciers. Les glaciologues suisses disent qu'en 2050, c'est-à-dire après-demain, le glacier du Rhône aura disparu, c'est-à-dire que le Rhône aura perdu sa source. Ça, c'est lié à ce changement climatique, parce qu'il y a moins d'épaisseur de neige, le couvert neigeux dure moins longtemps, les glaciers reculent, etc. Donc, il y aura une alimentation en eau plus faible. Donc, le fleuve, comme le Rhône, perdra du débit. Mais en même temps, le réchauffement climatique passe par des événements exceptionnels. Il suffit de voir les crues comme ça s'est passé à la Roya, toutes ces inondations catastrophiques, etc., ou ces feux et incendies de forêt gigantesques. Là, il y a le retour d'El Niño. On va encore subir encore des phénomènes extrêmement graves. Et donc, partant de là, on sait que les événements extrêmes seront encore plus violents. Donc, les crues, et en particulier, puisque la crue de la Saône a été très documentée, celle de 1840, il s'est produit donc des pluies océaniques très abondantes en amont, en Bourgogne, etc., au Jura, qui a fait une double crue déjà très haute, assez importante. Et il s'est produit un phénomène rare, mais qui va se reproduire de plus en plus fréquemment à cause du réchauffement climatique, c'est le remontée des abats cévenols, de ces pluies, ces orages cévenols. Et en 1840, c'est ce qui s'est produit. Il y a eu un abat cévenol qui s'est fait sur la Bréven et sur la Zergue. Résultat, la Saône est montée de 13 mètres à l'île Barbe. Et ça peut se produire n'importe quand maintenant. Donc notre rôle, pédagogiquement, c'est de sensibiliser les gens à un retour et qu'ils ne soient pas surpris que de ce retour de crues exceptionnelles. Quand elles se produiront, on ne sait pas, mais la probabilité, elle augmente. Voilà.
Les ponts à Lyon ont été construits justement pour permettre à ces crues de s'évacuer. Alors,
pour le Rhône. Oui, pour le Rhône a été le dernier fleuve qui a pu être aménagé en pont, parce que le Rhône est très instable, son lit, etc., et sa puissance, qui fait qu'il a fallu, il n'y avait qu'un seul pont, qui était le pont de la Guillotière, qui a tenu presque 500 ans, on est d'accord, mais c'était comme la ville étouffait entre le Vieux-Lyon et la presqu'île est tout fait, il fallait s'étendre sur la rive gauche du Rhône. D'où ce pont, le premier pont qui a été fait, c'est le pont Morand, pont de bois d'ailleurs, et puis ensuite le quartier des Brotteaux, et progressivement, avec les techniques de mieux maîtriser, on a construit progressivement tous les ponts qui jalonnent le Rhône dans la traversée de Lyon. Par contre, la Saône, elle avait aussi un seul pont qui était le pont du Change. Hein. Et le pont du Change, lui, était à l'origine de ce fameux rapide de la mort qui trompe, qui était un handicap considérable dans la navigation et un obstacle aux crues. On l'a vu d'ailleurs en 1840. Donc là, la question, c'était de gagner des ponts. Et les ponts, on a renouvelé tous les ponts de Lyon, et en particulier grâce aux frères Seguin qui ont développé la technique des ponts suspendus, c'est-à-dire une pile de ponts au milieu, et puis de chaque côté, par des câbles, le pont, comme puisque le pont le plus vieux de Lyon, c'est à la fois le pont de l'île Barbe. Il était au départ, c'était pas des câbles, c'était des chaînes. Mais les chaînes ont pété, voilà. Et c'est le pont, la passerelle Mazaric maintenant, qui était le pont Mazaric. Et il y a encore sur sa pile la date en bronze de 1840.
Il y a des particularités un peu architecturales, comme par exemple ce pont Raymond Barre. On a l'impression qu'il repose en fait sur le pont Pasteur. Ça, c'est voulu ou c'est un effet d'optique qui est voulu ?
C'est un effet d'optique qui a été voulu, oui, par les architectes. Et c'est intéressant parce que autant le pont Pasteur est un pont traditionnel, c'était le deuxième ou le troisième, je ne me souviens plus, mais avec ses arches ajourées et ses piles ajourées pour laisser passer l'onde de crue, autant le pont Pasteur, qui est une technique tout à fait différente, c'est arc et ficelle, donc avec un tablier extrêmement mince, mais qui te donnait un tirant d'air très élevé, et qui fait, les architectes l'ont pensé ça, de faire la même courbe que le tablier du pont Pasteur, du fait qu'on a un effet d'optique. Vous avez vu, quand on fait le demi-tour au confluent, on a l'impression que le pont Raymond Barre repose sur les piles du pont Pasteur.
Ces rails mythiques là, qui plongent dans l'eau au confluent, c'est quoi ?
Alors, ces rails mythiques, c'est une marque du passé. Au niveau de la Mulatière, il y avait un pont, un barrage à aiguilles. Il y a encore l'écluse qui sert de bassin pour les joutes. Le barrage à aiguilles, ce sont des gros madriers qu'on soulève ou qu'on descend pour réguler le plan d'eau pour la navigation. Or, ce barrage à aiguilles de la Mulatière, qui était identique aussi à celui de l'île Barbe, n'avait plus son utilité après 1966, lorsque la CNR a aménagé Pierre-Bénite. Donc, le plan d'eau par le barrage de retenue de Pierre-Bénite a remonté le plan d'eau d'1,50 m. Donc, ce n'était plus nécessaire, ces barrages. Du coup, pour amener tous ces madriers qui étaient cassés, qui pourrissaient, qui étaient emportés par les crues, il fallait régulièrement les renouveler. Donc il y avait une voie ferrée qui était connectée à la voie ferrée de Lyon-Saint-Étienne qui apportait les bois du Pilat, et il y avait une petite voie ferrée qui partait de la gare à l'intérieur de la confluence, quand la confluence est encore un espace incertain, et apportait au niveau du barrage de la Mulatière ces madriers, ces aiguilles. Et de fait, avec la remontée d'eau, le barrage a disparu, enfin a été supprimé, mais de fait, la voie ferrée reste, et donc les gens s'interrogent sur pourquoi il y a une voie ferrée qui plonge dans l'eau. Alors ça, le fantasme marchand, et vous avez entendu, c'est Harry Potter.
Également, si on veut se replonger dans cette histoire de la confluence, justement, et ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que sur les façades de Gale Evans, il y a quelque chose d'assez extraordinaire.
Oui, alors, sur le siège de Gale Evans, ce qui a été, d'abord, c'était une performance architecturale, hein, de faire en déport une structure métallique extrêmement lourde, et il fallait un socle très important. Et comme c'est un meuble sur cette structure métallique, ils ont fait un espace sans cloison qui était donc en verre, la chaleur était très importante, donc ils ont fait une double paroi, et sur cette double paroi ils ont fait une sérigraphie qui rappelle l'histoire du quartier, puisqu'on voit sur les trois côtés, en amont, en aval et de face, ils ont fait des sérigraphies qui rappellent le passé de ce lieu, c'est-à-dire d'un port Rambaud. Alors quand on est de face, on voit le pont Pasteur. Quand on voit sur l'aval, on voit l'ensemble du port Rambaud, et de l'autre côté, on voit la partie Confluence. Donc c'est très intéressant, mais surtout avec les jeux de lumière, puisque c'est des vitres teintées, avec ces jeux de lumière, on a en aval, sur cette sérigraphie qui montre le port Rambaud ancien, on a le reflet du musée des Confluences. Face à la Saône, là, on a le pont Pasteur, du côté de Gerland, et on a en reflet toute la balme de Fontanières. C'est intéressant, voilà. Ce qui fait que le passé, le devant et le derrière à la fois. Voilà. Il y a un magnifique jeu d'illusions sur ces doubles parois de verre. Voilà.
Pour conclure, est-ce qu'on peut dire que l'eau, finalement, à Lyon, elle rapproche les gens? Parce que quand on se promène sur l'eau, on a l'impression que tout le monde veut dialoguer avec nous, que ce soit sur les ponts, sur les autres bateaux.
Oui, bien sûr, ça fait envie. Les gens sont sur les quais ou sur les ponts, ils voient passer ces bateaux avec des passagers et des commentaires. C'est vrai que ça fait envie. Et vous avez vu le succès des petits bateaux sans moteur qui montrent que les gens ont envie de circuler sur les fleuves, c'est vrai. On ne peut que s'en réjouir.